J'aimerais d'abord vous saluer de la part de l'Église de la Bonne Nouvelle. Je suis très heureux de pouvoir collaborer ensemble dans ce département où on n'est pas nombreux en tant que chrétiens évangéliques, mais les relations sont bonnes entre nos églises et je crois que c'est un privilège, une grâce et je pense que ça vaut la peine de le redire et on est heureux de faire partie de la même famille, peu importe les titres, les casquettes, on est enfant de Dieu et ça c'est l'essentiel. Et voilà, je veux vraiment vous apporter toutes ces salutations de la Bonne Nouvelle. Je suis très heureux d'être avec trois jeunes que je connais un peu plus, parce qu'on groupe de jeunes ensemble, ils me supportent plus souvent que vous. Donc vous pouvez les décorer d'une médaille, je pense que ça vaut la peine, parce que... Courage, parmi les autres. J'ai rencontré Julien à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, il y a peut-être 2 ans. Et quand je l'ai rencontré, Julien était un jeune qui n'avait pas d'espoir. Quelqu'un qui avait usé d'énormément de violence envers d'autres, qui était là pour 5 ans de prison ferme. Quand on a 5 ans de prison ferme, c'est qu'on a fait des choses déjà assez costauds. On a discuté ensemble de différentes choses. Aujourd'hui, Julien, il est dehors, il est dans une église à Lorient, il est impliqué dans son église, et il rayonne de la gloire de Dieu.
Amen.
Le changement entre les deux, la rencontre avec Christ. Et ce matin, j'aimerais avec vous parler d'un texte qui est certainement le texte le plus important de la Bible, s'il fallait les classer. Mais aucun texte n'est plus central, aucun n'est plus important que celui qu'on va lire ensemble ce matin. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, horreur pour les humains, incompréhension pour les incrédules, la croix est le centre de l'histoire. Et je voudrais même dire... C'est le moment qui a bouleversé l'histoire de l'humanité.
Amen.
Et j'aimerais avec vous lire ce texte et le méditer ensemble ce matin. Alors, je voudrais d'abord faire une petite citation d'un monsieur qui s'appelle Alexandre McLaren. La croix est le centre de l'histoire du monde. L'incarnation et la crucifixion de notre Seigneur est le pivot autour duquel tournent tous les événements humains. Il y a des milliards d'humains, au travers des siècles, qui ont affirmé que cette croix, et en particulier celui qui était sur cette croix, qui est ressuscité, a complètement bouleversé leur vie, comme c'est le cas pour Julien, comme c'est le cas pour moi, et comme c'est le cas pour plusieurs parmi nous. Je vous invite à prier avant de lire ce texte. Père Céleste, nous voulons nous présenter devant toi ce matin en ouvrant ta parole. Nous croyons que tu parles au travers de ce texte. Et Seigneur, nous voulons pas simplement lire un texte, nous voulons que tu nous parles au travers de ton esprit. Et te prions pour que tu illumines nos cœurs, nos entendements, et que nous puissions réaliser tout ce que tu veux nous dire au travers de ce texte. Seigneur, que cette parole puisse résonner d'une façon particulière pour nous, et que tu puisses prendre toute la place, que je sois juste transparent et que ce soit toi qui intervienne maintenant, Seigneur. Amen. Je vous propose de lire le texte dans Jean 19, versets 17 à 37. Alors, il est affiché dans la version du Semeur, vous pouvez le suivre dans les versions de vos Bibles. Je l'affiche aussi en espagnol et en anglais, parce que j'ai appris à la fac que c'était important d'être dans une optique où tout le monde peut arriver facilement à suivre. Donc, si vous connaissez l'espagnol, vous pouvez le suivre en espagnol. Jean 19, versets 17 à 37. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts. Une pour chacun d'entre eux. restait la tunique qui était sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se tenait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et l'on approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus, de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi, vous croyez. En effet, bon, je ne sais pas où ça va. Le récit que nous avons lu est un récit vrai, une histoire vraie, qui s'est réellement passée dans un lieu physique, avec des personnes qui peuvent attester, comme le fait Jean dans ce texte. C'est ce que j'ai vu, réellement. Et ce texte ne peut pas nous laisser indifférents. À la fin du message, il y a forcément une prise de position. C'est obligatoire. Alors on va regarder ensemble trois choses. Sur cette croix, la partie sera plus longue, je vais détailler un petit peu les faits. Ensuite, expliquer pourquoi on dit que c'est le Sauveur qui est sur cette croix. Comment on peut le savoir? Qu'est-ce qui, dans le texte, nous permet de dire « Oui, c'était bien le Fils de Dieu » et qu'est-ce que ça change finalement pour toi et pour moi? Donc, je vous propose de reprendre maintenant les faits qui sont signalés dans le texte biblique comme autant d'accomplissements de prophéties. Des prophéties qui ont été dites parfois 400, 500, 600, 700, 800, 900 ans avant que Christ vienne. À l'époque, les prophètes d'Israël avaient annoncé depuis ce temps qu'un un Messie allait venir, un Sauveur. Et les prophètes l'identifiaient à un Fils de l'homme, à Dieu lui-même aussi parfois, et ils attendaient un Messie glorieux, puissant, sorte de cavalier sur son cheval blanc avec une épée qui ferait dérouter tous les Romains devant eux. Mais là, notre texte commence de façon étonnante avec la marche d'un homme, affaibli dans les rues de Jérusalem. Et la foule l'entoure comme on entoure à l'époque les criminels qui vont être mis à mort. Vous savez, à l'époque, on ne cache pas les criminels dans une prison, au fin fond d'une campagne. À l'époque, on les met à la vue de tous pour dissuader les gens de faire les mêmes choses. Toute rébellion contre l'État romain était comme ça réprimée par la crucifixion. Nous savons que des dizaines de milliers de personnes ont été crucifiées par les Romains. Et c'est de cette manière-là que Jésus est mort. Il n'y a rien qui permette, dans les textes, dans les traditions, d'imaginer que ça puisse être un poteau, comme certains disent, c'est vraiment une croix. Et ce qui est assez fascinant, de cette manière, c'est que l'archéologie a permis de démontrer comment ça fonctionne, la crucifixion. On est en capacité aujourd'hui d'expliquer très clairement comment Jésus est mort et qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Donc la crucifixion romaine, c'est une torture qui est réservée à ceux qui troublent l'ordre public, ceux qui sont des rebelles, des criminels, des révoltés. En général, c'est pour des non-romains. Il y a quelques exceptions, il y a parfois des militaires qui sont crucifiés, mais en général, ce sont des non-romains. D'ailleurs, en même temps que Jésus, il y a d'autres personnes qui sont crucifiées. Des terroristes, pour le dire dans notre langage d'aujourd'hui. Alors, la méthode, c'est assez simple. Hein. On épuise le condamné par des coups de fouet. On le fouette quasiment jusqu'à ce qu'il meure. Et puis, ensuite, on lui demande de porter, pas la croix elle-même, mais ce qu'on appelle le patibulum, c'est la partie haute. Et en général, on ne portait pas comme sur le dessin, là, mais ça traînait par terre avec des cordes. Et la personne se trimbalait comme ça dans Jérusalem en tirant cette grosse poutre dans toute la ville. Parfois, la personne pouvait être aidée pour porter. C'est effectivement ce qui s'est passé pour Jésus. Simon de Cyrène va s'occuper hein, de porter avec lui dans Matthieu 27, 32. Alors Jean n'en parle pas dans notre texte parce que Jean veut montrer que Jésus, il est aux commandes. Et que jusqu'au bout, il est souverain. Donc, Jean n'insiste pas du tout sur la faiblesse de Jésus à ce moment-là. Et Jésus, effectivement, on sait par l'évangile de Matthieu, va s'écrouler à cause des coups et à cause du poids qu'il doit tirer. Une fois qu'on arrive au lieu où se passe la crucifixion, on a certainement obligé Jésus à s'allonger par terre. Et ses bras ont été cloués sur la barre horizontale qu'il avait portée lui-même, qu'il avait tirée lui-même. Alors ce sont les bouts des avant-bras qu'on cloue. Parce que si on clouait les mains, en fait les mains se déchiraient et le criminel peut partir. Donc il aurait mal, mais il n'est pas mort. Donc, et le but c'est de tuer. Donc on clouait vraiment certains plus dans les poignets, voire dans le début des avant-bras. Alors c'est pas très gai, hein, mais ce sont des bouts de clous de 15 cm environ, on demandait. Et ensuite, une fois qu'on avait cloué la personne sur ce patibulum, on montait le patibulum et on le fixait au pieu qui était donc fixé dans la terre. Alors contrairement à l'image qu'on en a, un peu cette image d'Épinal, le condamné, il a pas les pieds sur un bloc en bois, mais il y a une pièce triangulaire à hauteur des reins, qu'on appelle la cédula, qui l'oblige à prendre une position assez particulière, qui l'empêche d'être bien. Et en fait, cette position, elle va obliger la personne à être complètement cambrée comme ça, et ça bloque la respiration. Et les pieds du condamné sont en réalité posés l'un près de l'autre, et on plante un clou qui traverse latéralement les pieds du condamné. Donc il y a une forme d'angle droit avec le torse, et on ne peut pas bien respirer. La mort de la crucifixion, ce n'est pas à cause du sang qu'on meurt, la perte de sang, c'est on meurt d'asphyxie et de suffocation. En fait, petit à petit, il n'y a plus d'air. Et donc, la personne qui est en train d'étouffer, elle va pousser sur ses pieds pour reprendre un peu d'air, sauf qu'en appuyant sur ses pieds, vous comprenez bien ce qui se passe. Donc, ça déchire encore un peu plus les tissus au niveau des pieds. Donc, la personne reprend un tout petit peu, elle ne peut pas prendre plus, ça se réaffaisse. Et donc, c'est une asphyxie qui est assez lente, en réalité. Hein. On se demande comment l'être humain peut inventer des trucs comme ça. Enfin, et donc, la torture de la croix, elle peut durer très longtemps. On a des historiens qui ont décrit la résistance de plusieurs jours des gladiateurs de Spartacus. Vous voyez, à ce moment-là, il y a 6000 gladiateurs qui sont crucifiés le long de la voie Appia, et il y a des crucifiés qui vont tenir plusieurs jours dans d'atroces souffrances. Alors, moins pour abréger les souffrances des crucifiés, mais plus pour aller plus vite, eh bien parfois, on tape simplement sur les tibias des crucifiés, comme ça ils ne peuvent plus s'appuyer, et l'asphyxie arrive en quelques minutes. Ça c'est le principe romain, tout à fait sympathique, ou pas, que les Romains ont inventé pour leurs rebelles. Donc les évangiles ne nous disent rien d'autre que ce que l'histoire atteste. Vous voyez qu'on est vraiment avec un texte tout à fait fiable. Donc Jésus subit en fait la condamnation habituelle pour un rebelle de l'État romain. Alors selon le texte biblique, bon, c'est parfois sujet à discussion, mais la crucifixion de Jésus a eu lieu un vendredi. Et les traditions juives exigent que le supplice soit arrêté le vendredi soir, parce que le vendredi soir, on commence le sabbat. En plus, c'est le sabbat de Pâques, donc c'est la grande fête. Et là, on voit bien toute la religiosité des pharisiens qui mettent à mort un gars qui est juste, tout en le sachant, ceux qui ont inventé tout le procès, etc. Hein, et qui disent, il faut vite se dépêcher de finir ça, parce qu'après, il faut qu'on aille faire la fête pour Dieu. Il y a un truc quand même hein, dans la compréhension des choses, je dois dire. Et donc du coup, moins pour soulager les souffrances de Jésus, on veut briser les gens pour qu'on puisse faire la fête ensuite. Alors,
quand les Romains arrivent pour briser les jambes de Jésus, on l'a lu tout à l'heure, en fait, ils ne brisent pas les jambes de Jésus parce qu'il est déjà mort. Et effectivement, ce qu'on peut dire, de façon certaine, c'est qu'il n'y a aucun risque pour que Jésus était encore vivant après la crucifixion. Vous savez, il y a parfois des légendes urbaines comme ça qui circulent en disant « Oui, mais en fait, il s'est juste endormi, les disciples, ils ont détaché, il s'est ressuscité. Enfin, il n'est pas ressuscité parce qu'il n'est pas vraiment mort, il était juste endormi sur la croix. » Tiens, les Romains, voilà, c'était leur métier, ils savaient faire, quoi. C'était pas le premier qui crucifiait, hein, donc voilà, ils avaient une certaine technique, une certaine habitude. Et puis, si jamais on n'est pas sûr, il y avait un coup de lance pour terminer dans le cœur, en passant par le côté. Il n'y a aucun doute sur le fait que Jésus est mort. Aucun doute. Et d'ailleurs, tous les historiens sérieux attestent tous qu'effectivement, un juif nommé Jésus est mort sur une croix sous Ponce Pilate. Pas de doute à ce sujet-là. Alors le texte de Jean focalise toute cette attention sur cette croix et ce qui se passe autour de cette croix. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans les autres évangiles, on a plein d'événements qui sont rapportés. Vous avez le voile qui se déchire de haut en bas, dans d'autres évangiles. Vous avez la résurrection de certains morts, le ténèbre en pleine journée. Et tout ça, Jean n'en parle pas. Jean, lui, il se focalise vraiment sur cette croix. Et tous les regards ne sont que sur cette croix et sur Jésus qui est en train de mourir. Alors Jean précise quand même qu'au-dessus de la croix, on fait placer un écriteau. Là encore, hein, rien de nouveau chez les Romains. Les Romains ont l'habitude de placer ce qu'on appelle le titulus au-dessus de la croix. En fait, les personnes, quand elles marchent dans Jérusalem en tirant leur patibulum, elles ont en fait un écriteau qui explique pourquoi elles sont condamnées à mort. Et en fait, cet écriteau, ensuite, on le met simplement sur la croix pour dire voilà pourquoi cet homme a été mis à mort. Ça servait d'avertissement. Et donc, dans le rapport du gouverneur à Rome, pour les archives, Jésus est exécuté pour des motifs politiques. Il s'est proclamé roi, alors que dans l'Empire, il n'y a qu'un seul roi, c'est César. Alors sans le savoir et sans le vouloir, Pilate proclame la royauté de ce condamné à mort sur cette croix, ce qui est quand même assez étonnant. Hein. Et on notera que l'inscription est rédigée en trois langues, et donc tout le monde peut la lire, l'hébreu, la langue du peuple, le latin, la langue de l'occupant, et le grec, la langue de l'Empire, qui à l'époque est universelle. Hein. Donc Jésus est mort pour tous, aussi, hein, avec ce... Alors autour de la mort de Jésus, il y a deux événements qui nous sont rapportés. D'abord, les soldats qui partagent les vêtements. Au 1er siècle, les habits coûtent cher. Il n'y a pas qu'à habits. Et en fait, les habits appartenaient de droit au bourreau. Ce qui fait que, on sait, par l'histoire, que certainement Jésus est mort tout nu. Ça fait partie de l'humiliation. Hein, dans nos images bien, dans le petit drap, là, certainement les crucifiés mourraient nus. Et les quatre soldats, sans le savoir, accomplissent une prédiction qui a été donnée par David, 1000 ans avant cet événement. Je ne sais pas si vous imaginez, 1000 ans. Déjà, moi, dans 10 ans, je ne sais même pas comment ça va évoluer la technique, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer, mais 1000 ans. Et quand David prophétise ce qui se passe autour de la croix, il décrit un supplice qu'il ne peut pas imaginer, qui n'existe pas à son époque. Et vous pouvez lire le psaume 22, hein. C'est assez incroyable, hein. Lisez tout le psaume 22, où David décrit cette crucifixion. On peut le lire ensemble si vous voulez. Hein. Mais on a clairement dans ce psaume 22 l'idée que les gens autour du crucifié, là, se partagent les vêtements. Alors autant on peut dire, oui, Jésus, il a trafiqué un peu, parce que dans certaines prophéties, il les connaissait, donc il s'est débrouillé pour entrer dans les prophéties qui étaient dites sur le Messie. Alors, celle-là, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il est sur une croix. Il est vraiment celui qu'il disait être, le Fils de Dieu, le Messie. D'ailleurs, Jésus sur cette croix va crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est un extrait du psaume, c'est en fait le premier verset du psaume 22. Je ne sais pas si vous savez, mais le chapitrage de la Bible, les numéros qu'on a dans nos Bibles, sont apparus très tard, 12e siècle quasiment. Hein. Et donc du coup, à l'époque, pour citer un psaume, on cite la première phrase. Et donc Jésus sur la croix, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il pense à tout le psaume 22, en réalité. Alors certains théologiens disent il a dit tout le psaume 22. Au moment d'asphyxier, je ne suis pas sûr qu'on arrive à dire un verset de 20-30 versets. Mais en tout cas, il y a pensé, ça c'est une certitude. J'aimerais juste, si vous voulez le prendre, juste lire quelques extraits. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Et moi, verset 6, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Verset 13. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent les vêtements, ils tirent au sort la tunique. On peut continuer. Hein. Je crois qu'il faut vraiment réaliser ce qui se passe là. Vous le savez, Dieu a créé l'être humain pour avoir une relation parfaite avec Dieu. Et quand Dieu a créé l'être humain, tout allait bien. Genèse 1, 2, c'est l'harmonie totale. Et puis, l'être humain s'est rebellé contre Dieu. Et quelque part, c'est comme si dans la beauté de ce que Dieu avait créé, tout d'un coup, il y a du poison qui est entré dans l'humanité. Une sorte d'arsenic super puissant qui a tout gâché. Et avec ce poison, la mort rentre. Avec ce poison, la séparation d'avec Dieu. Et parfois, on dit oui, mais bon, si on fait des bonnes œuvres, si on fait des trucs un peu sympas, si on s'occupe des autres, ça permettrait de compenser. Mettez de la grenadine dans l'arsenic et buvez le verre, vous verrez, ça compense. On pense rien du tout. C'est du poison. À un moment donné, il faut se débarrasser du poison. Il n'y a pas de solution, humainement. Il n'y a pas de solution. Il fallait que quelqu'un de totalement juste, fils de Dieu, prenne la place sur cette croix, notre place. Et je trouve assez étonnant que la crucifixion, enfin la croix, le tenture de la croix, soit là pour les rebelles. C'est qui les rebelles devant Dieu ? C'est notre place, normalement, face à Dieu. Sur cette croix, c'est notre Sauveur qui est là. Alors dans les promesses que Dieu avait faites à David, Dieu avait promis qu'un de ses descendants serait un roi qui règne éternellement. Et cette promesse s'est accomplie, mais pas d'une manière militaire, politique, comme les Juifs le pensaient, mais de cette croix. Christ règne pour l'éternité. Quand je dis de cette croix, c'est pas tout à fait juste, parce qu'il est ressuscité, il a été glorifié, il n'est pas resté mort. Mais vous comprenez cette idée. Ce qui se passe ce jour-là n'est pas un accident de parcours. Ce qui se passe ce jour-là n'est pas un échec de Dieu, mais l'accomplissement de prophéties qui ont été annoncées depuis très longtemps. Genèse 3,15, déjà, on a déjà l'annonce de ce qui va arriver. Tout ce qui se passe ce jour-là, c'est un plan prévu de longue date par Dieu le Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui agissent ensemble pour le salut des hommes. Alors il y a une autre scène qui est rapportée, qui contraste avec celle des soldats, c'est les quatre femmes. Quatre femmes qui sont là, qui sont brisées par la douleur. Et on comprend, hein, Marie qui voit son fils. Oh. Horrible. Personne ne veut voir son fils agoniser dans telle souffrance. Et là, au pied de cette croix, se joue une scène incroyable. Parce que voyant sa mère, Jésus demande à Jean, donc le disciple qu'il aimait, hein, c'est une manière dont Jean se présente, comme il ne veut pas dire « moi », il dit « le disciple que Jésus aimait dans son évangile ». Eh bien, Jésus demande à Jean de s'occuper de sa mère. Alors l'Église catholique dit « oui, ben, en fait, c'est là où Marie devient la mère des croyants. Mais dans le texte, on voit plutôt que c'est Jean qui s'occupe de la mère de Jésus, plutôt que l'inverse. Juste pour comprendre, à l'époque, il n'y a pas de CAF. Hein. Donc les veuves, certainement Joseph est déjà mort, le fils de Marie est en train de mourir, et bien Jésus pense à sa mère en disant bah, « prends soin d'elle ». Il faut bien trouver un système pour elle. C'est des choses aussi sur l'amour de Dieu, hein, de Jésus-Christ. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus appelle sa mère femme. Jésus, en parlant à Marie, dit femme. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant pour nous. Alors, c'est pas du tout une marque de non-respect, mais il y a un autre épisode dans l'évangile de Jean où Jésus appelle sa mère femme. Est-ce que vous savez à quel moment il le dit ? Aux noces de Cana, exactement. Et aux noces de Cana, qu'est-ce qu'il dit à sa mère en disant femme? Vous vous souvenez de ce qu'il raconte?
Qu'y a-t-il entre toi et moi?
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui, voyez le texte, Jean 2,4. Mon heure n'est pas encore venue. Mm-hmm. Comme par hasard, quand il dit femme la deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Son heure est venue. C'est maintenant le temps où il va se glorifier. À Cana, sa mère voulait qu'il se glorifie par un miracle grandiose, que tout le monde dise « Oui, c'est lui le Messie, il est capable de transformer de l'eau en vin, waouh !» Et non, mon heure n'est pas encore venue, ça ne va pas se passer comme ça. À la croix. Maintenant, mon heure est venue. Oh. Ouais. C'est puissant l'évangile quand même. Après cette parole où il annonce sa glorification, il s'écrit tout est accompli. C'est un seul mot en grec. C'est un mot qu'on retrouve sur des feuilles de reçu d'impôt, où ça signifie entièrement payé. La dette est acquittée maintenant. Et donc Jésus, en disant ça, tout est accompli. C'est acquitté maintenant. Le poison d'humanité, le péché est brisé là, sur cette croix. J'aimerais maintenant relever quelques éléments qui montrent que celui qui meurt ce jour-là, eh bien, le Fils de Dieu qui était annoncé. On a vu dans le texte que Jésus a été sacrifié hors de la ville. Quand vous lisez le système du Lévitique, on voit qu'avec tous ces sacrifices interminables, lorsque le peuple d'Israël offrait donc un animal pour le pardon des péchés, on prenait le sang et puis ensuite on transportait l'animal, souvent un agneau ou sans défaut, en dehors du camp. C'était une image qui annonçait qu'un jour, le Sauveur allait être emmené en dehors de la ville. C'est pour moi qu'il dit, hein, c'est dans Hébreux 13, je n'ai rien inventé, Hébreux 13, 11, 12. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Premier lien entre Jésus et l'agneau de Dieu qui doit enlever le péché du monde. Deuxième élément. Au-dessus de la croix, on a un écriteau, là, ce Titulus, qui est une provocation de Pilate hein, contre les Juifs, et en particulier contre Hérode, qui veut être roi. Hein, c'est un petit roi de lait qui n'a pas du tout d'influence. Et Pilate, en mettant « Voici le roi des Juifs », il fait comme ça à Hérode. Hein. Bien comprendre, hein, on est dans de la politique, hein, rien n'a changé. Alors pendant longtemps, on s'est arrêté sur la déclaration en latin, donc en notarique. Hein, notarique, c'est de compresser la phrase, si vous voulez, avec les premières lettres. Donc sur inri, le fameux. Mais quand on regarde la phrase en hébreu, alors là, c'est incroyable. C'est complètement hallucinant. Alors, je vous fais la phrase, mais bon, excusez mon accent. Yeshua Anazirum Melech Aïbim, ce qui donne en otarique YHWH. Yahvé. Waouh! Incroyable! Sur cet écriteau, il y a écrit le nom de Dieu. YHWH. Et là, vous comprenez que les pharisiens, ils deviennent fous! Mais moi, mais ce pardon! Et dit Jésus, qu'est-ce qu'il a pas arrêté de dire? Je suis! Et vous savez, quand Dieu se présente à Moïse, il dit je suis celui qui suis. Hein. Si on veut le traduire en français, on ferait je suis. Mais l'évangile dans l'Apocalypse de Jean, Jean utilise une expression qui dit je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis! Et Jésus, comme par hasard dans tout l'évangile, dit « Je suis le pain de vie, je suis, je suis, je suis, je suis la lumière du monde, je suis le chemin avec la vie. » Et sur la croix, il s'écrit « Je suis. » On comprend qu'ils s'énervent les gens quand même en face. Hein, et encore, c'est pas quelque chose que Jésus a pu commander. C'est Dieu qui est aux commandes, mais on voit bien. Waouh, c'est puissant. Autre élément. C'est pas fini, vous allez voir, c'est incroyable. Contrairement aux autres évangiles qui parlent d'un roseau, Jean parle d'une branche d'hysope. Ah, c'est 29. Alors l'hysope, c'est un buisson à 30-45 cm à peu près qui pousse dans les murailles. Et dans l'Ancien Testament, on nous explique que c'est avec de l'hysope qu'on fait les aspersions de sang, notamment dans le récit de la Pâque, vous savez, quand les Juifs partent, ils prennent de l'hysope et puis ils badigeonnent les linteaux avec de l'hysope. Et là, comme par hasard, on retrouve l'hysope au moment où la mort de Jésus sur la croix. Encore une fois, on nous dit, Jésus est le vrai agneau de Dieu qui vient pour sauver, pour purifier du péché. À la dernière. On a parlé de ses jambes brisées, hein. Que Jésus n'a pas eu les jambes brisées. Ça aurait été déjà mort. Et quand on lit des textes sur la Pâque, notamment dans Exode 12, on se rend compte qu'il ne fallait pas briser les os de l'agneau. C'est quand même incroyable. Moi, je suis époustouflé par la puissance de l'évangile. Franchement. Cette personne qui meurt sur la croix est bien l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Je suis incarné. Dieu lui-même qui se fait homme et qui vient prendre notre place alors que nous étions rebelles et qui donne sa vie pour vous, pour moi. À la croix, le péché est vaincu définitivement. Tout est accompli, acquitté. Cet instrument de torture, cette horrible chose, devient pour celui qui croit le point de départ d'une nouvelle vie. Et vous constaterez que il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Tout est déjà fait. C'est par la foi. Vous pouvez mettre toute l'adrénaline du monde que vous voulez. C'est pas l'image de Babel, je disais, c'est pas bon l'adrénaline en plus. Mais par le sang qui a coulé, ma purification est offerte. Par le sang, par le corps meurtri de Jésus-Christ, mes esclavages tombent. J'ai une libération qui est possible. Ma liberté est acquise. Et puisque Jésus meurt et paye à ma place, je ne suis plus coupable. Je suis le pécheur. Par la foi, je suis acquitté. Je suis libre en Jésus. C'est dans un tribunal aussi. Si le juge prononce une peine, voilà, tu vas être maintenant pour 5 ans en prison. C'est comme là maintenant, si dans notre situation, le juge avait dit, ok, toi pour 5 ans normalement, je vais prendre ta place. Toi t'es libre, je vais y aller moi. Waouh. C'est ce qui se passe en réalité. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette croix où Satan pensait avoir battu le Créateur, où il se frottait les mains quelque part, alors... Peut-être lui, il ne dit pas comme ça, mais on imagine un peu, hein. Satan se réjouissait de reporter un coup fatal. Quel crime j'ai gagné. 3 jours plus tard. On a tout perdu. La victoire est déjà acquise. Alors tout n'est pas encore visible. La maladie, la mort existe encore. Mais le décompte final a commencé. Alors, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Mais le décompte final est amorcé. Christ a la victoire. Amen. Et il y a des choses qui sont déjà en marche, qui sont déjà là. Notre acquittement, notre justice devant Dieu. Et il y a des choses qui vont s'accomplir pleinement. La fin des souffrances, la fin des maladies, la fin de la mort. La vie éternelle avec Dieu, ça arrive. Parfois, on confond un peu les deux. Je sais, c'est très bien. Des choses, mais... Mais ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. J'aimerais résumer ce qu'on a vu un petit peu. Depuis la chute, les humains sont séparés de Dieu. On peut faire tous les efforts qu'on veut, mais toute la grenadine qu'on a envie, c'est impossible de rétablir le lien avec Dieu. C'est pas possible. Donc Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il y ait un lien possible entre lui et nous. Et il y a un troisième acteur de la Trinité, le Saint-Esprit, qui lui transforme la personne pour qu'elle puisse vivre cette relation avec Dieu. Et vous voyez comme les trois personnes de la Trinité travaillent ensemble pour que l'être humain puisse avoir cette relation avec Dieu. Se pose la question maintenant, où est-ce que j'en suis par rapport au péché ? Par rapport à cette rébellion contre Dieu, par rapport à ce poison qui infecte ma vie. savez, toutes les fautes, toute l'horreur de l'humanité est marquée par ce poison. L'orgueil, la haine, la méchanceté, les guerres, les atrocités, les barbaries, le mensonge, le détournement d'argent, l'exploitation des plus forts par les plus pauvres, les haines raciales, la cruauté, la négligence écologique, les persécutions, les indifférences. Tout le mal de l'humanité prend sa racine là. Et Christ a payé pour ça. Par la foi, ceux qui décident de lui demander pardon reçoivent la liberté. J'aimerais nous faire réfléchir ce matin. Avec juste un verset pour finir. Jean 3, verset 5-6. Jésus qui parle à Nicodème, bien avant ces épisodes-là, et qui explique à Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, dit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une essence naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir accéder à cette relation avec Dieu, j'ai besoin que le Saint-Esprit transforme ma vie. Et on est tous invités à dire, « Ok, Seigneur, moi je veux que tu fasses cette œuvre dans ma vie. Je reconnais que ce poison infecte ma vie. » Ça ne veut pas dire que je vous ai fait cette démarche-là, toute votre vie, tout ce qui était difficile avant, va tout d'un coup, ça va être « Waouh, tranquille, j'ai de l'argent qui arrive. » Non. Je suis acquitté. Je découvre une nouvelle liberté. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Parfois, il se produit des choses. Je parlais de Julien tout à l'heure. Julien, il était toxico. Du jour au lendemain, il n'a plus rien eu par rapport au hashish. Mais il se bat encore avec la cicatrice. Il y a des choses qui partent d'un coup, d'autres pas. Et il avance. Eh oui, il avance. Et on avance tous. Et je ne vais pas vous promettre que quand vous acceptez Christ, voilà, waouh, vous avez gagné l'auto demain. Non, ça ne marche pas comme ça.
Non.
Ça ne marche pas comme ça. Mais quelle liberté, quelle espérance. Et on peut dire comme Paul, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans le dénuement. J'ai une espérance, je sais où je vais. Alors j'aimerais conclure avec vous. On ne peut pas rester indifférent face à cette croix. Scandale pour certains, folie pour d'autres, mais seul moyen de salut proposé par Dieu. Et face à cette croix, on doit se positionner ou se repositionner. La croix, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour toi et pour moi. Nous étions rebelles. Nous méritions, nous, cette mort sur cette croix. Parce que nous sommes des rebelles, des vrais rebelles. C'est moi le chef. Ce que Dieu veut, c'est moi le chef. On est rebelles. Nous sommes appelés à la vie. Nous sommes appelés à entrer dans ce que Dieu a fait. Alors j'aimerais vous poser deux questions. Je ne sais pas où vous en êtes, les uns les autres, je ne vous connais pas. Peut-être certains réalisent, peut-être pour la première fois pleinement, la problématique du péché dans la vie. Est-ce que vous voulez que Dieu transforme ça? Ça, c'est une première question pour vous. Est-ce que vous souhaitez que le Saint-Esprit prenne toute sa place dans votre vie et qu'il transforme? Qui vous permettent de vivre cette nouvelle relation avec Dieu. Première question. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un jour accepté Christ, faites-le. C'est entre vous et Dieu. Hein. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas de stat. Hein. Peut-être que, deuxième question, peut-être que vous avez déjà accepté Christ dans votre vie. Peut-être que, juste ce matin, vous réalisez tout à nouveau la grandeur du plan de sauvetage que Dieu a mis en place pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait de Christ dans notre quotidien? Vous savez, c'est bien d'aller le dimanche à l'église, c'est chouette. Hein. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Mais si c'est que le dimanche matin, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Il y a beaucoup plus que juste une vie du dimanche matin. Être connecté à Dieu à chaque instant. Waouh! C'est ça la vie chrétienne.
Ouais.
C'est ça la vie chrétienne. Alors, je te pose la question du coup. Où est-ce que j'en suis, Seigneur, devant toi, avec toi, aujourd'hui. Je veux avancer. Je ne veux pas rester juste à attendre le dimanche matin pour avoir un moment avec toi. Je veux vivre ces moments avec toi à chaque instant. Je veux prendre du temps avec toi. Je veux méditer ta parole. C'est grandiose. Parce que, waouh, mais c'est puissant de lire comment Dieu il a déroulé tout ça. Je veux vivre cette intimité avec toi. C'est ça, la vie chrétienne. Passons par côté. Et j'aimerais pour que qu'on puisse les uns et les autres simplement se prendre du temps pour ça. Juste, j'aimerais juste mettre un fond musical avec une petite vidéo et je n'ai plus parlé, j'ai assez parlé. Mais juste que vous puissiez être avec Dieu simplement. Et les paroles qui vont être chantées sont des paroles qui sont fortes, qui peuvent vous aider à prier. Peut-être que vous n'avez pas besoin de simplement prier. Mais prenez maintenant ce temps avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
merci pour cet amour incroyable que tu as manifesté. Seigneur, nous connaissons surtout l'amour humain qui nous aime en fonction de nos compétences et de nos réussites. Toi, tu nous proposes un amour divin qui nous aime malgré tous nos défauts, malgré toutes nos imperfections, malgré toute notre rébellion. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous reconsacrer devant toi. Te demander, Seigneur, que tu puisses prendre toute ta place dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter d'une vie chrétienne triste et épisodique, mais nous voulons vraiment vivre cette relation personnelle, profonde avec toi à chaque instant. Que tu puisses par ton esprit nous transformer, que tu puisses nous faire grandir en toi. Seigneur, notre espérance, elle est là, elle est en toi, parce qu'elle découle de cette croix. Il n'y a pas d'autre moyen de salut, Seigneur. Nous le confessons, nous le proclamons, nous en témoignons. Seigneur, que tu puisses aider les uns les autres dans ce qu'ils vivent. Tu connais les situations de chacun. Et Seigneur, merci parce que tu n'es pas indifférent à ce que chacun peut vivre. Bien au contraire. Et cet amour sur la croix en est la preuve évidente. Tu nous aimes. Seigneur, que nous puissions partir avec cette certitude que tu nous aimes d'un amour qui